Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Nous nous retrouvons pour la rétrospective de la semaine du 3 au 9 mai. Vous êtes sur la radio Nzamba Agathe Kakaoué, à la présentation Valérie Moucho. Près d'une année après l'élection présidentielle au Burundi, le journal belge La Libre Afrique a révélé cette semaine des preuves d'une fraude qu'il qualifie de sans appel, fraude qui a permis au général Evariste Ndayishimiye de prendre la tête du pays. Ces révélations résultent d'une enquête publiée par des chercheurs burundais qui veulent garder l'anonymat par peur de représailles. Selon toujours La Libre Afrique, ces chercheurs pourront rendre ouvertement leurs conclusions quand il y aura le retour d'un espace démocratique au Burundi. Les détails avec Jacob Sibomana.
Ces chercheurs partent des faits électoraux qu'ils qualifient tantôt de contradictoires, tantôt d'inexplicables. À travers La Libre Afrique, ils rappellent la publication des résultats provisoires sur les ondes des médias en synergie quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, alors que la Commission électorale nationale indépendante récoltait encore des résultats. Or, le Conseil national de la communication avait rédigé un code de conduite des médias leur interdisant de publier des résultats partiels avant la proclamation officielle, font-ils encore observer. Un autre fait qui étonne ces chercheurs, c'est la proclamation des résultats à l'hôtel Club du lac Tanganyika pour que trois jours plus tard, le même président de la CENI indique qu'il s'agissait d'un bruyant mal fait et que ces résultats étaient nuls. Cela n'a pourtant pas attiré l'attention de la Cour constitutionnelle qui a validé ces mêmes résultats le 4 juillet 2020. S'exprimant sous anonymat sur La Libre Belgique, ces chercheurs burundais précisent que tous ces résultats sans méthode ni explication étaient favorables au candidat du CNDD-FDD, général Evariste Ndayishimiye. De plus, sur base de 1251 procès-verbaux, ils parviennent à comparer les résultats qui ont été publiés par la CENI et ceux indiqués sur CPV en leur possession, en se limitant sur Evariste Ndayishimiye et Agathon Rwasa dans 5 provinces. Ainsi, dans la circonscription de Bujumbura-Mairie, la CENI a donné à Ndayishimiye 36,70% contre 28,79% donné par les chercheurs. 52,11% à Ndayishimiye par la CENI contre 58,83% de Rwasa par les chercheurs. Dans la province de Cibitoki, la CENI a donné à Ndayishimiye 64,99% contre 37,64% des chercheurs. Rwasa a eu 27,79% selon la CENI contre 52,87% des chercheurs. Les mêmes différences sont remarquées également pour les provinces de Kayanza, Makamba, Bubanza et Bujumbura rural comme illustration de ces chercheurs. Pour la mairie de Bujumbura uniquement, ils constatent une augmentation de 7,91% pour Ndayishimiye et moins 6,73% pour Rwasa. Ils affirment que ces chiffres ont été manipulés entre le moment du dépouillement et le moment de la proclamation. Ils mettent au défi la CENI si elle n'est pas d'accord avec le résultat de leur recherche, qu'elle donne accès aux procès-verbaux tels qu'ils ont été archivés à tous ceux qui voudraient les consulter. Les chercheurs concluent que la CENI n'a pas publié les chiffres du vote réel, mais a fabriqué des scores électoraux. Selon eux, la commission n'a peut-être été qu'un instrument, la falsification a peut-être été improvisée. Enfin, il conclut qu'il est possible que sur l'ensemble du pays, Agathon Rwasa ait dévancé Evariste Ndayishimiye au premier tour et qu'il apprend qu'Evariste Ndayishimiye est trop loin des 50% pour être élu au premier tour et qu'il est certain que la CENI n'a pas donné les vrais résultats dans aucune province.
Il est passé par la petite porte dans sa récente tournée diplomatique effectuée en Europe. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, a effectué en début de semaine une tournée dans trois pays européens, la France, la Belgique et la Suisse. Mais ses homologues européens ont refusé de le recevoir parce que la situation des droits de l'homme au Burundi reste toujours précaire. C'est une véritable leçon pour le ministre burundais, selon le mouvement politique MAP Burundi Buhire. D'après ce mouvement politique, le rapport de mission présenté par le ministre Albert Shingiro a été rédigé de manière à impressionner les autorités burundaises, alors que sa mission a accouché d'une souris. Le point avec Alexandre Niungeko.
Le mouvement d'action patriotique Burundi Buhire constate qu'il y a encore un long chemin à parcourir vers le rétablissement des relations diplomatiques avec l'Europe. Ce mouvement se base sur la récente tournée effectuée par le ministre burundais des Relations extérieures de la coopération internationale, Albert Shingiro, n'a pas été reçu par des hautes autorités des pays et institutions visitées comme il espérait. Selon Pacifique Emery Gilaneza, le président de MAP Burundi Buhire, Bien qu'il ait été reçu seulement par son homologue suisse durant sa tournée européenne, Albert Shingiro a reçu une leçon de promotion des droits de l'homme au Burundi. Le chef de la diplomatie suisse aurait appelé le gouvernement burundais à faire preuve de réformes en matière de respect des droits de l'homme, Emery Pacifique Guilanese.
Ignacio Cassis, qui est son ministre, a appelé le Burundi à mettre en œuvre les réformes concrètes des droits de l'homme lors d'une réunion avec Albert Shingiro. Il a notamment mentionné la violation des droits des femmes, des enfants. Il a dit que les droits humains au Burundi ne sont pas respectés. Donc, Shingiro était là pour être éduqué et pour qu'il puisse retourner au Burundi promouvoir les droits de l'homme. Voilà combien il a été ramené à bas.
La tournée du ministre Shingiro l'avait conduit aussi dans d'autres pays européens, comme la Belgique et la France, où il espérait aussi rencontrer ses homologues et les hautes autorités de l'Union européenne dans la capitale Bruxelles, mais sans succès. Cette mésaventure a une grande signification en matière de diplomatie, selon Emery Pacifique Guilanese. Le président de MAP Burundi rappelle que les relations diplomatiques du Burundi avec les autres pays se sont progressivement détériorées et trouve que les ambassadeurs du Burundi, accrédités en Belgique et en France, et même le ministre en charge de la diplomatie, devraient être limogés.
Dans les deux pays, il entra par ce qu'on appelle en diplomatie l'entrée par la petite porte. Il n'y avait pas de réciprocité des honneurs, mais sa tentative de les rencontrer a été rejetée. Une manière diplomatique de lui dire qu'il ne mérite pas ce qu'il cherchait. En 21e siècle, des ambassadeurs du Burundi à Paris et à Bruxelles ont laissé leur patron voler 8000 km sans aucune garantie qu'il rencontrera ses homologues dans les pays d'accueil. Soit Shingiro venait pour les vacances, il a utilisé les fonds du pays pour une visite qu'il savait bien qu'elle n'allait pas aboutir. Sous d'autres cieux, le ministre et ses ambassadeurs auraient dû être destitués par leur chef de gouvernement.
Rappelons que le ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale a sorti ce mercredi un communiqué de presse sanctionnant la fin de la tournée européenne du ministre Shingiro, une tournée effectuée du 24 avril au 4 mai. Un communiqué rapport dont le contenu n'est pas crédible selon MAP Burundi et trouve qu'il s'agit plutôt d'un communiqué qui ne cherche qu'à jeter la poudre aux yeux des Burundais et de la communauté internationale.
L'armée burundaise maintient toujours le lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa comme commandant du 7e bataillon du contingent burundais qui ira en mission de maintien de la paix en Centrafrique au sein de la MINUSCA. Ce haut gradé est accusé de crimes contre l'humanité. Il est accusé par les ONG de défense des droits de l'homme d'avoir ordonné à ses troupes de tirer sur des manifestants contre le troisième mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza en 2015. Ildefonse Baranyikwa est également dénoncé dans d'autres abus d'enlèvement, de viol des femmes et de collaboration avec les génocidaires rwandais des FDLR. Le point avec Nadine Mourakei.
38 hommes et 2 femmes sont les officiers burundais qui ont répondu à l'appel ce lundi lors de l'ouverture des séances de formation pré-redéploiement pour une mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique. Des modules sur les principes des Nations Unies et surtout sur le respect des droits humains sont à la base de ce que ces officiers burundais du 7e bataillon sont appelés à apprendre avant de prendre la relève de leurs collègues prévus au mois de septembre prochain. Pourtant, un visage hante toujours les défenseurs des droits de l'homme parmi les bénéficiaires de la formation. Il s'agit du commandant de sous-bataillon, le lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa. Ce haut gradé de l'armée est connu dans les milieux de la société civile comme un des officiers qui ont régulièrement abusé de leur pouvoir en réprimant de manière disproportionnée les manifestants contre le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza. Ce comportement de certains hauts gradés de l'armée burundaise a souvent été prise en compte par les Nations Unies quand il s'agissait de former des casques bleus parmi le contingent burundais. Certains noms ont même été rayés de la liste des officiers à déployer dans des missions de maintien de la paix en Centrafrique et en Somalie.
Signalons qu'une délégation de la MINUSCA est en visite au Burundi depuis le 5 mai dernier. Elle est conduite par le commandant Sidiki Daniel Traoré. La délégation a été reçue par le chef d'état-major, Prime Niyongabo, mais l'on ignore si les deux hommes ont abordé la question de la participation du lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa au sein de la MINUSCA.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba agateka kawe c'est sur le www.inzamba.org mais aussi sur YouTube et Twitter. Nous continuons avec la rétrospective de l'actualité burundaise de cette semaine écoulée. Il est presque impossible aujourd'hui de se rendre dans les provinces du sud du pays à partir de la capitale économique Bujumbura. C'est suite à l'effondrement jeudi du pont reliant les deux provinces de Bujumbura et Rumonge. Les usagers de cette route redoutent de graves conséquences liées à cette situation. Ils se plaignent déjà aujourd'hui de la hausse du prix du transport, ce qui fait craindre une possible flambée des prix des produits de première nécessité. Le manque du sucre au Burundi résulte de la rareté des monnaies en devise, ce qui a significativement affecté la Société internationale du commerce, ITRACOM, qui peine à livrer un complément de plus de 4000 tonnes de sucre à la société sucrière publique Sosumo, une livraison qui aurait dû être effectuée fin avril. Les deux sociétés s'en sont remises à la Banque centrale afin de débloquer la situation. Alice Akimana.
La société sucrière du Mosso n'a plus la capacité de satisfaire le marché local et doit compter sur le sucre importé. Selon les sources émanant des partenaires de la Sosumo, c'est la compagnie International Trading Company, ITRACOM en sigle, qui a gagné le marché d'importer le sucre, soit du Brésil, du Malawi ou de la Zambie, pour compléter la quantité dont la Sosumo a besoin pour satisfaire le marché burundais. Pour l'exercice 2021-2022, ITRACOM devrait livrer 30 000 tonnes à la Sosumo en deux tranches, dont 15 000 tonnes pour 2021. Mais jusqu'en avril de cette année, ITRACOM aurait livré 11 000 tonnes à la Sosumo. Les autres 4 000 tonnes n'auraient pas été livrées par manque de devises. Une question indépendante de la volonté de la société ITRACOM selon les mêmes sources. Le ministère du Commerce aurait saisi la Banque de la République du Burundi pour permettre à ITRACOM d'importer la quantité restante. Ces sources précisent qu'en temps normal, la Sosumo produit à peine 20 000 tonnes par an qui ne parviennent plus à couvrir les besoins en sucre dont le pays a besoin. Selon les explications des agents de la Sosumo, une bonne partie de ce sucre est utilisée dans diverses nouvelles industries alimentaires, surtout les boissons. D'autres sources parmi les commerçants du sucre ajoutent que parmi eux, il y en a qui profitent de cette crise pour spéculer en camouflant une certaine quantité du sucre pour la revendre aux détaillants à un prix exorbitant. Ces derniers sont à leur tour contraints d'augmenter le prix au kilo, rendant cette denrée hors de prix pour les familles aujourd'hui. Nous avons essayé de contacter l'administrateur directeur général de la Sosumo et les autorités de la BRB, mais sans succès.
Terminons cette édition par ces deux nouvelles brèves. Les réfugiés du camp de Mahama au Rwanda vivent actuellement une situation compliquée. Ils viennent d'être classés en catégorie et ceux qui se retrouvent dans la troisième catégorie, qualifiés de nantis, ne seront plus assistés. Avant cette mesure, ils ne bénéficiaient déjà que de 3040 francs rwandais par mois, soit moins de 100 francs par jour. Ils indiquent qu'ils mourront de faim si rien ne change. Et le représentant de ces réfugiés a écrit au HCR et au Programme Alimentaire Mondial pour leur demander de ne pas les abandonner à leur triste sort. Et enfin, un mot sur le sport. Les clubs burundais, mais aussi la Fédération de football du Burundi, vont perdre de l'argent et les victoires seront désormais difficiles à décrocher. De même que les fans n'auront plus l'occasion de soutenir leurs équipes. Une perte énorme pour le football burundais. Ce seront là certaines des conséquences liées à la décision de la CAF, la Confédération africaine de football, à annoncer qu'aucun terrain de football du Burundi n'est en mesure d'accueillir des compétitions internationales. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine qui s'écoule. Merci pour votre attention. À la prochaine.
Zambira Samirana.
Amakuru, Makuru, Yaranzinundu.